Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, retour sur l'œuvre de l'intellectuel américano-palestinien Edouard Saïd, auteur de L'Orientalisme, avec la romancière et essayiste Dominique Hédé, auteur de Edouard Saïd, le roman de sa pensée, aux éditions La Fabrique, un voyage intellectuel et littéraire au Proche-Orient qui nous ramènera forcément aussi du côté de Jérusalem. La franco-libanaise Dominique Hédé nous rejoindra donc pour la deuxième partie de la Grande Table, après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, à l'occasion du centenaire de la mort du peintre-sculpteur, une exposition lui rend hommage jusqu'à la fin février au musée d'Orsay. Degas, danse, dessin, c'est à voir jusqu'à donc le 25 février. Son amitié de 20 ans avec l'écrivain Paul Valéry, sa passion pour la danse, le mouvement, les corps. Dans l'atelier d'Edgar Degas, avec nos invités, la romancière Camille Laurence et la directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris, Elisabeth Platel. Elles sont avec nous tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Et maintenant, on va faire les ronds de jambes. On y va. Allez, et devant. C'est bien. Dégagez vos vers. Gardez bien les bras, les enfants, c'est bien.
Né en 1834, mort en 1917, peintre dit impressionniste, lui se voyait surtout en réaliste. Pour le mouvement auquel il appartient, il aurait préféré même les intransigeants. Peintre, dessinateur, graveur et sculpteur, ce misanthrope rebelle au milieu officiel, anticonformiste à sa manière, était surtout un homme singulier qui a posé un regard nouveau sur la danse et les danseuses. C'est elle qu'on entend derrière nous donner la mesure à ses élèves. Elisabeth Platel, directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris, ancienne danseuse étoile, nommée à l'issue de Gisèle en 81, vous avez fait vos adieux à la fin des années 90 pour reprendre cette école par la suite et vous avez organisé dans le cadre de l'exposition actuellement au musée d'Orsay une démonstration de danse par les élèves de l'école à la barre de Degas, c'était dans l'auditorium du musée d'Orsay samedi dernier. Bonjour à vous Elisabeth Platel.
Bonjour.
À vos côtés la romancière Camille Laurence, auteure de La petite danseuse de 14 ans, parue chez Stock à la rentrée, où vous redonnez vie à la jeune fille qui a servi de modèle au peintre, petit rat de l'Opéra de Paris, de la chair et un cœur qui bat à un corps qui n'a cessé d'être confisqué par l'art et le regard des regardeurs depuis un siècle bientôt. Bonjour à vous Camille Laurence.
Bonjour.
D'abord fascinée par un lieu, l'Opéra, puis par la toute petite société qu'il habite, Edgar Degas. « J'ai enfermé mon cœur dans un soulier de satin rose », c'est une phrase de lui, bien connue. À partir des années 1870, est-ce qu'on peut dire, Camille Laurence, qu'il devient un peintre en coulisses ?
Oui, c'est certain que Degas était passionné par l'opéra, par la danse. Au départ, il était passionné en fait par la musique. C'était la raison première d'aller à l'opéra. Et puis, on pourrait dire qu'il a compris que par la danse, la musique devient dessin. Et il s'est mis à dessiner, à peindre passionnément les danseuses. Alors, en coulisses, en effet, parce que ce qui l'intéressait, c'était surtout l'envers du décor, les répétitions, le labeur, en fait, que représente la danse, plutôt que les spectacles qu'il a assez peu représentés.
Peintre en coulisses et peintre des coulisses, il était abonné, un titre qui permettait à l'époque de se rendre en coulisses pour observer les danseuses, ce qu'il a fait avant de rejoindre son atelier pour peindre, d'après le souvenir et la mémoire. C'était une quête de vérité pour lui, un travail presque documentaire, une représentation du réel, ce que l'on peut voir aujourd'hui dans ses esquisses, dans ses croquis, mais également dans ses peintures. Abonné aujourd'hui, Elisabeth Platel, il y a encore des hommes qui ont le droit d'aller, comme à l'époque, en coulisses. Regarder les danseuses s'entraîner, répéter.
Les visites sont absolument privées et exceptionnelles. Ce sont souvent des mécènes et on les organise. J'en reçois d'ailleurs à l'école de danse, mais c'est un petit peu toujours dans le sens démonstration. Parce que on n'a pas envie de montrer toute notre cuisine.
Alors que lui disait « je veux regarder par le trou de la serrure ». C'est une autre de ses phrases célèbres qui a donné son nom à un recueil de textes de lettres de lui publié par les éditions Mille et Une Nuits. Il voulait montrer quoi, d'après vous ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il a vu en regardant par le trou de la serrure des coulisses de l'opéra ?
Si vous voyez les tenues de répétition des danseuses, il a vu des corps, chose qui n'était pas du tout dévoilée dans la société à ce moment-là. Et je suis toujours fascinée par la justesse des positions qu'il a dessinées les en dehors des danseuses qui sont tellement compliquées à désigner. Il a aussi su traduire par un dessin un mouvement. Elles ne sont pas du tout figées. Il y a des diversités de poses. Elles sont abandonnées parfois dans une réflexion. Elles vont être fatiguées ou au contraire, elles auront une pose très travaillée. Ce sont des peintures très vivantes et qui sont presque cinématographiques.
Mais vous le dites l'une et l'autre à quelques exceptions près, comme l'étoile ou la danseuse sur scène de 1876. Il ne montre pas tant la danse comme un spectacle que le dur travail, le labeur pour les danseuses qu'implique la danse, ce qui échappe au public, les répétitions, la préparation, les étirements. Il peint moins la virtuosité que les temps de pause et les mimiques, pour reprendre le mot de Paul Valéry, des danseurs et des danseuses. C'est des postures qui sont aujourd'hui immuables. On retrouve aujourd'hui les mêmes gestes, les mêmes poses que dans ces tableaux ou ces dessins d'Edgar Degas, Elisabeth Platel.
Oui, il y a un des tableaux où la danseuse se masse la cheville. Il y a beaucoup de poses où elle remet les lacets de chaussons. Il y en a un où la jeune femme a un pied posé sur un banc et c'est une position totalement l'amplitude de la souplesse de hanche qu'on a actuellement. Et il y a souvent, alors là je l'ai remarqué dans beaucoup de tableaux très discrètement, il y en a toujours une qui remet la bretelle de son tutu.
Ça n'a pas changé.
Les bretelles sont toujours là.
Et la remise de bretelles. On peut dire que d'une certaine manière, il a codifié ce qu'était la danse à l'époque, à travers sa peinture aussi.
Il a donné une identité à cette époque parce que peut-être que les danseuses n'étaient pas toutes habillées comme ça, mais là, ça y est, pour nous, à cette époque, elles avaient ce juponnage de tulle, elles avaient ce petit bustier en tissu certainement grossier. On le voit pas sur le tableau, on imagine que c'est de la soie, mais je pense que ça devait être beaucoup plus grossier. Et pour nous, ça y est, on sait qu'à cette époque-là, elles étaient toutes habillées comme ça.
Camille Laurence, il voyait les danseuses répéter, mais pas que, des coulisses de l'opéra, celle de Garnier d'abord, celle de Garnier ensuite, qui va ouvrir en 75, après que l'opéra Le Pelletier a brûlé en 73. D'ailleurs, il l'aimait beaucoup moins, cet opéra Garnier, par rapport au précédent. Il va donc regarder par le trou de la serrure, et il va voir aussi ou observer des structures sociales. Le ballet, un corps très organisé, de la base jusqu'au sommet, aujourd'hui encore, peut-être, je sais pas, juste d'ailleurs en aparté, les hiérarchies ont beaucoup changé depuis le 19e siècle, Elisabeth Platel.
Je ne sais pas si historiquement les appellations étaient identiques. Dans les années 50, il y avait encore 5 classes du corps de ballet avec petit quadrille, grand quadrille, premier quadrille, deuxième quadrille et petit et grand sujet. Lorsque je suis rentrée dans la compagnie, on est passé à 3 classes de corps de ballet et ça n'a pas changé depuis.
Alors il voit ça, cette hiérarchie, le langage, les codes, et il voit aussi la condition des danseuses, Camille Laurence, l'origine sociale de ces jeunes filles, les paillettes et la paillasse, écrivez-vous, le dessin animé d'ailleurs Ballerina, l'histoire de Félicie, une orpheline bretonne qui veut monter à Paris pour intégrer l'école de Paris, montre une autre réalité, celle d'une école très sélective, que les petites filles bien nées de bonnes familles ont plus de chances d'intégrer. Aujourd'hui, ça probablement beaucoup changé. Comment c'était à l'époque? Qui étaient les jeunes filles qui avaient accès à ces coulisses de l'opéra? Qui étaient les petits rats?
À quelques exceptions près, c'était des petites filles, parce qu'elles entraient très tôt, de familles pauvres, de milieux très populaires, et qui entraient là en fait pour avoir un contrat de travail. Alors c'était leur mère, souvent c'était des mères célibataires qui inscrivaient leurs filles à l'opéra pour qu'elles gagnent leur vie et pour donc nourrir la famille. D'ailleurs, souvent, c'était des fratries. Quand il y avait plusieurs sœurs, elles étaient toutes inscrites. Enfin, en tout cas, les mères cherchaient à les inscrire à l'opéra avec, en arrière-pensée, l'idée que, en dehors du contrat, donc de la rémunération, elles pourraient trouver un protecteur.
Vous employez d'ailleurs le terme « vendre » aussi. Oui, les mères qui essayaient de vendre leurs filles parce que l'Opéra de Paris effectivement rapportait un maigre salaire pour la famille.
Oui. C'était un contrat qui impliquait en effet une sorte de... d'esclavage, on pourrait dire. Enfin, c'est un mot que j'ai retrouvé dans un texte de Théophile Gautier, du poète Théophile Gautier, qui s'intéressait beaucoup à la danse, qui a écrit un texte intitulé « Le rat ». Et il parle des marchés d'esclaves, du marché d'esclaves qu'est l'Opéra de Paris. C'est tout de même un terme assez fort. Il y avait donc des abonnés qu'on voit dans les tableaux de Degas, hein, ces hommes en noir qui sont un petit peu partout et qui observent les ballerines. Et ces abonnés avaient le droit d'entrer un petit peu partout, jusque dans les coulisses. Et ils venaient faire, en effet, leur marché érotique.
Il venait en coulisses, guetter, chercher la jeune fille, parce que la majorité sexuelle était aussi à 13 ans, à l'époque. Et c'est aussi que tout ça que Degas montre à travers ses représentations, c'est ce qu'il montre aussi, et c'est ce qu'on voit dans l'histoire que vous nous racontez dans ce livre, Camille Laurence, la petite danseuse de 14 ans, à travers cette jeune fille. L'original de cette statue très célèbre de Degas, elle est en cire, il y a eu des reproductions en bronze. La petite danseuse de 14 ans. Vous lui avez donné un nom, vous avez retrouvé son nom, Marie-Geneviève. Elle va louper complètement, malgré elle, son entrée dans la grande société des arts à travers cette statue. Elle est présentée une première fois et unique fois en 1881 dans le cadre d'une exposition impressionniste. Et elle va provoquer des réactions de rejet d'une violence assez rare. Vous les citez. Elle serait mieux au musée de zoologie, ironise une comtesse. Elle a l'air vicieux d'une criminelle, renchérit une autre. Quel laideron, celle-là, lance un jeune gandin. J'espère qu'elle fera le rat à l'opéra plutôt que chatte au bordel. Pourquoi est-ce qu'elle provoque de telles réactions de rejet ?
D'abord parce que le public la trouve laide. On la traite de laideron, d'avorton, de singe. Elle ne correspond pas aux canons esthétiques de l'époque. On attend des peintres et des sculpteurs qu'ils montrent la beauté, surtout la beauté féminine, la grâce, l'harmonie. Et donc, elle ne correspond pas. Elle, par ailleurs, elle est en cire. Et donc, du point de vue esthétique, c'est considéré comme un matériau précaire qui n'est pas noble, qui n'est pas le marbre ou le bronze des sculpteurs de l'époque. Et le public a donc l'impression qu'on se moque de lui en lui présentant une sorte de poupée, parce que l'autre chose qui choque beaucoup, c'est qu'elle est vêtue, elle est habillée, elle a une perruque de vrais cheveux, elle a donc ce jupon,
elle a des chaussons. Un vrai tissu de tulle.
Donc,
ouais.
Voilà, et donc une statue habillée, est-ce que c'est encore de l'art ? Voilà ce que se demande le public.
Et puis ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on évoquait, le regard de ces hommes sur ces danseuses, de ces abonnés qui venaient faire leur marché dans les coulisses de l'opéra, c'est que elle n'incarne justement aucune sensualité, cette petite danseuse de 14 ans. Elle a un corps d'enfant, elle a une mine impertinente avec son nez relevé, oui. Elle n'a pas une grâce particulière, en plus elle n'est pas en train de prendre une pause de danse, elle est comment dit-on, Elisabeth Platel, le corps est au repos.
Elle est au repos, elle est un peu, vous avez dit impertinente, oui, la pose est un peu impertinente. Elle est surtout, comme elle n'est pas adulte encore, elle a ce corps qui n'est pas abouti, les muscles ne sont pas encore dessinés, elle n'a pas de poitrine, elle a une position d'épaule qui n'est pas travaillée en plus. Il n'y a rien de joli, il n'y a pas la recherche de la beauté esthétique, même montrée dans les positions de relâchement des danseuses chez Degas. Elle est dans la réalité de cette enfance qui est inaboutie et qui ne connaît pas encore son corps. C'est ça peut-être qui a choqué, et de voir cet enfant, tous les petits rats étaient habillés certainement comme ça, mais là on le montre. Parce que les abonnés, ils voyaient les adultes, mais je pense pas qu'ils voyaient les enfants.
Les toutes petites. Et étonnamment, un siècle plus tard, cette petite danseuse de 14 ans, elle fait rêver les jeunes filles aujourd'hui. Elle s'y retrouve, elle s'identifie d'une certaine manière. Vous, vous n'êtes pas identifiée à elle ?
Oh, lorsque j'étais petite danseuse, elle était beaucoup moins célèbre. Je crois qu'elle a eu une reconnaissance lorsqu'il a fallu rénover le jupon de Tarlatane à une époque qui a suscité après le début des recherches autour de cet enfant. Et à l'opéra, il y a eu la création d'un ballet qui s'appelle La petite danseuse de Degas. Autour de cette recherche, elle a suscité finalement une création et on lui a redonné un petit peu des lettres de noblesse.
À la manière de Modiano, Camille Laurence, Marie van Cuttem, c'est son nom, Marie-Geneviève, était devenue ma Dora Bruder. Dites-vous, qu'est-ce que vous avez cherché en elle et qu'est-ce que vous avez trouvé d'elle ?
C'était une énigme pour moi, j'avais envie de savoir qui elle était. J'ai été beaucoup aidée, énormément aidée par les recherches qui avaient été faites par Martine Kahn avant moi, qui justement à l'occasion de la réfection, de la restauration du jupon de la petite danseuse, avait cherché qui était ce modèle. Et donc j'avais envie d'avoir accès à la personne et pas au personnage qu'elle est devenue, au personnage, à l'œuvre qu'elle est devenue.
Et à sa relation avec le peintre-sculpteur, comment vous l'avez imaginé ?
J'ai effectivement en partie imaginé, mais toujours à partir de témoignages. Par exemple, il y a eu un autre de ses modèles qui a écrit un livre intitulé « Degas et son modèle » en 1918, donc juste après la mort de Degas. Et donc je me suis inspirée de cela pour voir quelles étaient les relations entre Degas et son modèle. C'était quelqu'un d'assez intransigeant, difficile, qui demandait qu'on tienne la pause pendant des heures. Il était très mordant, très ironique, et il avait un rapport manifestement compliqué aux femmes et peut-être encore plus aux très jeunes filles comme l'était Marie. Donc c'est évidemment difficile de savoir exactement quelle a été leur relation, mais j'imagine que du côté de Degas, il y avait une fascination peut-être pour le féminin en train d'éclore, puisque lui-même avait peu de relations personnelles avec les femmes, avec la féminité.
Et d'ailleurs, c'est Gauguin qui dira de lui « Les danseuses de Degas ne sont pas des femmes, ce sont des machines en mouvement avec de gracieuses lignes prodigieuses d'équilibre. » Alors, est-ce qu'il y avait pour lui une relation presque asexuée à son modèle ? Ça, on ne sait pas, mais vous l'évoquez. Il a été taxé de misogynie, Edgar Degas. Hein. « Pour ses contemporains, écrivez-vous, Degas ne voit dans le sexe qu'une menace pour son art et dans les femmes que des animaux humains, des femelles. Quand il les peint à la toilette, c'est, dit-il lui-même, à l'état de bête qui se nettoie, quand ce sont des femmes de son rang, il a besoin de les amoindrir, voire de les avilir pour les peindre. Et pourtant, c'est devenu un grand peintre de la femme. Comment expliquer ça ?
Oui,
c'est un paradoxe.
Il a peint toute sa vie des femmes, en effet, beaucoup de danseuses, mais aussi des femmes. Il y a toute une série sur les bordels, les femmes nues à la toilette, beaucoup. Mais c'est son paradoxe intime. Je crois que nous avons tous comme cela cette sorte de d'ambivalence en nous, et la sienne, c'était à propos des femmes, je crois, une fascination pour un monde qu'il ne connaissait pas, parce que lui, dans sa vie personnelle, n'a jamais été marié, on ne lui connaît aucune liaison, aucune maîtresse, il vivait avec une gouvernante, qu'on pourrait appeler une sublimation par l'art, mais malgré tout, cela restait sans doute quelque chose d'essentiel pour lui, ce rapport aux femmes, par l'art.
La petite danseuse de 14 ans, ce récit roman, Camille Laurence, que vous avez écrit, est aussi l'occasion pour vous à la fois de réaliser une plongée dans l'enfance de ce petit rat, de ce modèle, en recherchant sa trace. C'est aussi l'occasion pour vous de revenir sur votre histoire familiale, de chercher les parallèles, les correspondances entre vous et elle. Et puis c'est aussi un tableau de ce qu'était la vie littéraire et la vie artistique à l'époque de Degas. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite statue ? Est-ce que vous avez pu en retrouver la trace. D'abord sur le moment après cette exposition de 1881 où Degas est rejeté avec sa statue assez violemment. Qu'est-ce qu'elle va devenir ? Il la range à l'atelier ?
Oui, elle va rester dans l'atelier, il va la retravailler puisqu'on a des lettres qui attestent du fait qu'il l'a retravaillée pendant des années. En 1903, il continuait à y travailler. Alors elle se délabre un peu dans l'atelier puisqu'au moment de la mort de Degas, on va retrouver environ 150 statues, sa statuette en cire, dont la petite danseuse, qui sera ensuite fondue en bronze en une trentaine d'exemplaires.
trentaine quand même qui circule aujourd'hui. La petite danseuse de 14 ans, en 2003 pour l'Opéra de Paris, Denis Levaillant compose la musique pour ce ballet chorégraphié par Patrice Barre. Nous, la romancière Camille Laurence et la directrice de l'école de danse de l'Opéra de Paris, Elisabeth Platel, cette petite danseuse de Degas, chorégraphiée donc par Patrice Barre, mise en musique par Denis Levaillant. Vous l'avez vue danser ? Est-ce que vous avez vu du coup cette petite statuette s'animer sur scène ?
Oui, je l'ai vu. Je n'étais plus officiellement à l'Opéra de Paris, mais je donnais des classes à ce moment-là. Et le processus de création a été certainement pour les danseurs de l'opéra une sorte de visite dans le passé. Parce que les décors, alors évidemment les décors n'étaient pas ceux de l'Opéra de la rue Lepelletier, mais inspirés plutôt des œils de bœuf de Garnier. Il y avait la danseuse étoile qui était le modèle de la petite danseuse Degas, la mère très présente, un peu ce personnage très sombre, l'abonné, et le créateur avec cette relation que vous soulignez tout à l'heure. Est-ce qu'il est amoureux de son modèle ou pas? Donc c'était une visite dans le passé et remise au goût du jour, mais avec des costumes d'époque, mais un petit peu travaillés.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
On est bien d'accord, pied plat en dehors, demi-pointe en dehors, 2x8 suivi et équilibre. Hein, il y avait un petit peu de... C'était pas tout à fait net. Allez, on y va.
La danse est l'origine du geste artistique, disait Mallarmé. Le travers dans lequel le peintre, Degas notamment, ne veut pas tomber. Le risque, c'est celui de figer un art vivant, Elisabeth Platel. Est-ce qu'il est parvenu pour vous, Edgar Degas, à traduire le mouvement du corps de la danseuse, la vie et l'âme du geste dans ses tableaux, dans ses esquisses?
Les tableaux sont totalement en mouvement. Évidemment, ils sont arrêtés dans la seconde où le dessin est fait, mais tout est mouvant, le tulle est très très bien suggéré, on ne voit pas un paquet. Même dans ces statues, on a l'impression qu'elle s'élance. Il y a toute une série d'arabesques où on sent l'effort physique, mais en même temps la technique. Donc c'est touchant de revisiter, de s'arrêter devant chaque moment de travail, de position. On s'est amusé à essayer de faire des histoires à chaque tableau. La danseuse qui est en train de faire sa variation, celle qui vient de la faire et qui est assise, celle qui va entrer en scène. Donc on peut vraiment vivre comme ces danseuses, et je pense qu'on est très proche. Notre vie n'a pas changé. Alors, en scène, je vous rassure, la vie sociale a complètement changé. Il n'y a plus du tout de petites danseuses de Degas à l'école. Mais notre entrée en scène, cette entrée dans la lumière, ce passage de l'obscurité à la lumière, ce passage de l'anonymat à la célébrité, à la mise en avant, c'est toujours la même chose.
Il y a beaucoup de parallèles à faire, Camille Laurence, entre le geste du peintre et le geste de la danseuse. Et il y a beaucoup de parallèles aussi entre la vie des danseuses et celle des peintres. Beaucoup de petites danseuses de l'opéra étaient aussi des modèles pour les peintres en parallèle. Vous l'évoquiez pour arrondir leur fin de mois. Paul Valéry, qui a donc écrit sur Degas, dit à ce propos, au sujet des danseuses qu'il peignait, sculptait, dessinait, il les capture plutôt qu'il les enjôle. Il les définit. Les danseuses, est-ce qu'elles étaient sculpturales aussi à l'époque, dans leur corps? Est-ce qu'elles correspondaient au canon de beauté de l'époque?
Là, j'aurais du mal à...
Mais pourquoi faisaient-elles des modèles? Sont-elles devenues presque des modèles idéales pour
l'époque? Parce que la danse exerçait une fascination sur tout le monde, et dans toutes les classes sociales. On se passionnait pour la vie des danseuses. Il y avait l'équivalent de nos magazines People. C'était des revues qui étaient consacrées aux danseuses. Bon, évidemment, surtout aux danseuses étoiles, dont certaines venaient de l'étranger. On suivait leur vie, mais on suivait aussi leurs aventures sentimentales et sexuelles. Enfin, c'était une vraie passion pour la danse.
Degas, c'était aussi un peintre qui inspirait beaucoup les écrivains. Zola, qui s'est nourri de ses tableaux pour écrire Nana, Octave Mirbeau ou encore Paul Valéry, qui a donc cherché à comprendre son génie, la conception qu'il se fait de son art, sa poétique picturale. Il va donc écrire sur lui, ni une biographie, ni un traité d'esthétique, une recherche assez labyrinthique sur l'œuvre et la personnalité du peintre. Il voit notamment en lui un peintre du sol, un peintre des planchers, et il écrit dans son récit, Degas danse dessin, sur ses premières impressions de l'artiste, grand disputeur lui-même et raisonneur terrible, particulièrement excitable par la politique et par le dessin. Il ne cédait jamais arriver promptement aux éclats de voix, jeter les mots les plus durs, romper net. Degas, fidèle, étincelant, insupportable. Il répond l'esprit, la terreur, la gaieté. Il perce, il mime, il prodigue des boutades, les apologues, les maximes, les blagues, tous les traits de l'injustice la plus intelligente, du goût le plus sûr. Ailleurs encore, il dit, il abîme les gens de lettres, l'institut, les faux ermites, les artistes qui arrivent. Ça, c'est l'idée qu'il nous en donne de cet homme quand même assez singulier. Aujourd'hui, on interroge beaucoup Camille Laurence, il faut distinguer l'œuvre de l'artiste. C'est une question qui a ressurgi dernièrement autour des affaires de harcèlement sexuel, question qu'on posera nous mardi avec nos invités Serge Toubiana, l'ancien patron de la Cinémathèque, et la sociologue Nathalie Hennick. Mais qui pourrait se poser aussi à propos d'Edgar Degas? Il était connu pour son antisémitisme qui avait été révélé notamment à l'aune de l'affaire Dreyfus. Il était parfois misogyne, totalement misanthrope. Comment vous jugez l'homme aujourd'hui, un siècle plus tard, vous, Camille Laurence?
En tout cas, je trouve que l'expression de Paul Valéry, l'injustice la plus intelligente, lui va parfaitement. C'est-à-dire que c'était à la fois, je pense, un homme brillant, un génie artistique, et puis c'était un homme avec tous ses travers, tous ses défauts. Bon, je pense que... C'est une question délicate, mais il était tout cela à la fois. C'est à la fois inséparable et tout à fait séparable dans la mesure où on peut ne garder que son œuvre.
Alors on pourra continuer à faire effectivement le procès de l'homme, mais il faut aller voir son œuvre et cette exposition à voir au musée d'Orsay, dure jusqu'au 25 février. Degas danse dessin, un hommage à Degas avec Paul Valéry. Il y a aussi un catalogue de l'exposition sous la direction des deux commissaires, Marine Kissiel et Leïla Jarbouet, une coédition Gallimard. Il y a votre livre à lire, roman de Camille Laurence, La petite danseuse de 14 ans, paru à la rentrée chez Stock. Mais encore un numéro de décembre de la revue Connaissance des Arts, à voir ou entendre une série d'événements autour de l'exposition, spectacles, concerts, ballets filmés. Demandez le programme, ce sera sur le site du musée. Merci beaucoup Elisabeth Platel.
Merci.
Et merci à vous Camille Laurence.
Merci.
À suivre, midi 55, la deuxième partie de la Grande Table avec l'essayiste Dominique Hédé, après le journal d'Antoine Mercier.